Nous sommes vendredi, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la sortie médiatique du 23 juin 2020 du procureur de la République après le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Sur l'affaire de l'audit du ministère de la Défense nationale, il sera ensuite question de l'enrôlement de la diaspora nigérienne au fichier national biométrique qui ne sera peut-être pas fait pour raison de la pandémie de la COVID-19. Nous terminerons avec la situation au Mali où depuis le 5 juin 2020, certains Maliens à leur tête, l'imam Mahmoud Diko, demandent le départ du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Maimouna Diado, elle est journaliste à la radio et télévision Tambara. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Nadissa.
Abba Hassan Boukar, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Roufaï Dandoua, journaliste freelance. Bonsoir, Roufaï.
Bonsoir,
Nadissa. À la modération, Nafis Adam Sirfo. Chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou, merci de rester fidèles à nos programmes. Le procureur de la République, Maman Seyabou Issa, le procureur près du tribunal de Niamey, était cette semaine devant la presse. Il s'est prononcé sur l'affaire de l'audit du ministère de la Défense. Selon lui, le cumul du manque à gagner pour l'État du Niger est de 32,6 milliards de francs CFA au lieu de 76 milliards de francs CFA. Alors, nous commençons par vous, Hassan Boukar. Vous êtes journaliste à la radio Alternative. Alors, comment comprendre l'évolution de cette affaire suite à après l'intervention du procureur?
Bonsoir, merci. Pour l'instant, je ne comprends pas grand-chose. Parce que là, je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une version provisoire de l'audit du ministère de la Défense et que cette version continue à être travaillée. Et donc, le dernier chiffre annonce 32 milliards.
Oui, c'est beaucoup, 76.
Voilà, c'est beaucoup d'argent, même si ce ne sont pas les 76 milliards de départ. Je pense que, il y a une forte demande citoyenne. C'est pour ça que le procureur fait ces sorties-là. La position des citoyens, c'est de dire qu'il s'est passé quelque chose de grave au ministère de la Défense, face auquel on attend des résultats. C'est de montrer qu'il n'est pas acceptable que dans un pays pauvre comme le Niger, que des gens puissent s'amuser avec l'argent public, qu'il est inacceptable que des hauts responsables politiques qui le savent puissent laisser faire, que l'impunité a trop duré. Il faut absolument rendre l'État du Niger dans ses droits. Il y a eu beaucoup de réactions des citoyens parce qu'à un moment, on a eu l'impression que ceux qui doivent mettre l'État du Niger dans ses droits n'était pas nécessairement sur la même longueur d'onde que les citoyens. Rappelez-vous de la première sortie du gouvernement qui consiste à dire, écoutez, oui, de l'argent a été pris, on va leur demander de rembourser. C'est de banaliser quelque chose d'extrêmement important pour ces pays. Et donc, aujourd'hui, il y a une sortie. Je pense qu'avant ça, il y a eu un communiqué du procureur pour dire qu'on a reçu le dossier et que les dossiers sont effectivement arrivés en justice parce que ce n'était pas gagné, même le fait que la justice puisse s'en occuper. Si ça ne dépendait que du gouvernement, il allait peut-être faire un autre traitement. En tout cas, il a fallu des luttes de la société civile, des citoyens, une dénonciation des médias pour que les dossiers puissent arriver en justice.
Et les citoyens, ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas cette baisse de ce chiffre-là qui revient à 32 au lieu de 76.
C'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas grand-chose non plus. Alors, je veux dire, la communication vise un peu à calmer toutes les questions, tous les questionnements des citoyens autour de ces dossiers, mais l'affaire ne sera réglée que par un juge auquel le dossier sera confié.
Justement.
Donc chacun attend qu'un juge puisse vraiment traiter au fond ces dossiers-là et dire véritablement ce qu'il y a. Mais il y a beaucoup de craintes en fait des citoyens. Je pense qu'avec le système judiciaire, il y a beaucoup d'appréhension des citoyens.
Effectivement.
Avec le système, au moins, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comptes non soldés entre les citoyens et l'institution judiciaire. Je parle du système en particulier parce que de plus en plus, il y a beaucoup de critiques sur le système, beaucoup de critiques sur le fait que la justice a du mal véritablement à gagner son indépendance, le fait que l'exécutif puisse encore continuer à jouer un rôle important. Rappelez-vous d'une récente déclaration de la société civile qui demande véritablement à ce que le Conseil supérieur de la magistrature puisse véritablement être indépendant, etc. Donc, il y a énormément de choses qui font que il y a beaucoup de réactions des citoyens, en fait. Avant même cette affaire du ministère de la Défense, avec beaucoup d'appréhension sur l'institution. Mais aujourd'hui, cette affaire montre que les citoyens sont extrêmement inquiets. Pour l'instant, c'est un jeu de chiffres. De 76, on revient à 32. Mais dans tous les cas, l'attente des citoyens, c'est qu'on comprenne véritablement ce qui s'est passé. Parce que pour l'instant, quand on nous dit qu'on est passé de 76 à 32, seuls ceux qui ont ramener les chiffres à ce niveau savent pourquoi ils le font. Voilà. Les citoyens, eux, ne le savent pas.
D'accord.
Donc, juste, on a besoin, à mon avis, de comprendre davantage tout cela, mais surtout de faire en sorte que ce dossier-là puisse être traité. Si ce n'est pas un exemple pour que ça puisse servir d'autres cas, mais ça soit bien traité. Et à mon avis, aujourd'hui, la réaction des citoyens consiste à dire on veut une vraie justice sur cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a on refuserait un arrangement, on veut une vraie justice. D'accord. À mon avis, c'est pour ça aussi que les pouvoirs publics réagissent.
Donc, autant de questions autour de cette affaire et autant d'inquiétudes.
Autant d'inquiétudes.
Un jeu de chiffres à Roufaille. Selon les avocats, dans leur récente sortie, les avocats des fournisseurs, le code pénal actuel du Niger ne prévoit aucune sanction pour les auteurs de surfacturation. Donc, selon vous, face à cette situation, à quoi vraiment devrons-nous nous attendre les jours à venir, Roufaille?
En fait, au-delà de ce que Abba a dit, au-delà de la question d'impunité, moi je pense qu'une question morale se pose dans cette affaire. Comment des gens, des responsables politiques et des responsables militaires envoient des jeunes garçons sur le terrain du combat et ne leur livrent pas l'armement nécessaire pour aller faire face aux djihadistes quand on sait que ces djihadistes sont bien armés? Vous envoyez des gens avec des cartouches qu'on dit expirés, avec des armements qui ne sont pas à la hauteur pour affronter cette situation. Je me demande comment des responsables politiques et des responsables militaires peuvent dormir tranquilles, sachant qu'ils ont sur la conscience les sangs des dizaines, voire des centaines,
des jeunes,
voilà, des jeunes de la fleur de l'âge qui étaient partis de l'armée par amour pour servir la patrie et qui se sont trouvés un jour délaissés ou abandonnés par les super. Moi, je pense que déjà, c'est ça le problème. Maintenant, quand on revient aux chiffres, moi, je ne comprends même pas. Déjà, les 76, je ne comprends pas. À un moment, on nous parlait de 1500 milliards. Je crus comprendre il y a longtemps. 1700. Très bien, 1700 milliards. De 1700 milliards, on est revenu à 76 milliards. Aujourd'hui, on est revenu à 32 milliards. D'accord, je vois la volonté du procureur qui a été nommé récemment, il n'y a même pas un mois, je crois, sa volonté d'aller peut-être vite dans ce dossier, mais comme l'a dit, on ne comprend rien, quoi. On ne sait pas comment le dossier est arrivé de 1700 à 76 pour arriver aujourd'hui à 32 milliards. Peut-être que demain encore, ça va revenir à moins que ça.
Voilà.
Mais même si 32 milliards, c'est beaucoup, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas l'argent aujourd'hui qui est important. C'est ce qu'a dit Abba. Comment on peut accepter cela? Comment on peut accepter que dans ce genre de situation, dans un pays comme le Niger, qu'il y ait autant de gabegie, qu'il y ait autant d'impunité et que personne ne pipe un mot, quoi. Mais bon, si on revient par exemple maintenant sur la sortie des avocats
des fournisseurs, si on peut le dire.
C'est comme l'a dit, je suis maître Hashimu en Osa, quand on comprend qu'ils défendent leur client, c'est tout à fait normal. Lui-même, c'est ce qu'il a dit. C'est tout à fait normal qu'ils défendent leur client. Maintenant, en face, qu'est-ce qu'il y a en face. Mm-hmm. Il faut qu'on nous a même montré des papiers, une voiture qui était tombée en panne, mm-hmm. que l'auteur a dit vouloir
remettre.
Remettre. Vous voyez, il y a comme si dans un jeu d'enfant, mm-hmm. moi si je comprends dans la partie médiatique.
Donc il faudrait nécessairement apporter plus d'éclaircissement aux citoyens.
Dans la partie médiatique. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, il faut que tôt ou tard, qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Pour que les têtes tombent. Parce que le cri des citoyens a fait en sorte qu'on commence à avoir de dénouement. Mais le dénouement total n'interviendra que le jour où des grandes têtes tombent. Et qu'on sache que vraiment les gens qui sont impliqués dans cette affaire ont vraiment répondu devant la justice.
Oui, Abba, vous voulez ajouter?
Oui, je pense que Rufai a évoqué quelque chose d'important. C'est la question de la responsabilité. Mm-hmm. Ok, en justice, le dossier sera traité. On va déboucher probablement sur des responsabilités et puis des personnes seront condamnées. Mm-hmm. Mais la responsabilité politique de le président de la République, il a pour fonction de faire tourner l'administration, mm-hmm. le premier ministre. Ce n'est pas pour rien qu'on demande leur avis avant d'exécuter les marchés. Mais ils ne disent rien, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un qui, en tout cas, un des animateurs du régime actuel, il était à l'opposition, disait mm-hmm. que la politique, ce n'est pas un métier de voyous. On aimerait bien le croire, quoi. On a vraiment envie de croire
mais
ça.
Au fond,
mais il faut bien que les gens montrent qu'en politique aussi, il y a quand même l'éthique. Mmh. En politique, il y a la responsabilité.
Effectivement.
Lorsque des gens sont sous votre responsabilité, il y a sans doute leur responsabilité directe, mais il y a aussi votre responsabilité.
Mmh.
Et donc, aujourd'hui, mais ailleurs, on voit pour un ministre qui démissionne, mmh. qui considère que d'un point de vue moral, il y a quelque chose qu'il doit assumer. Mais ici, on tourne autour des commerçants qui ont surfacturé, on tourne autour des agents qui ont laissé faire, etc. Chacun mm-hmm. a dû peut-être avoir un intérêt, je ne sais pas, le juge nous le dira. Mm-hmm. Mais les autres, les patrons de l'administration, mm-hmm. les gens qui devaient non seulement faire respecter les normes, mais faire en sorte que les autres respectent les normes, mm-hmm. ils sont là tranquilles.
Effectivement.
Et donc, la question de la responsabilité aujourd'hui, mm-hmm. ça veut dire que vous pouvez être à un niveau de responsabilité de premier ministre, de président, mais vous ne répondez de rien.
Mm-hmm. Donc il faut réellement...
Franchement, je peux me tromper. L'impression que j'ai, c'est que tu considères qu'en dehors des gens qui ont agi directement, toi, tu ne réponds de rien.
Parce que quand tu entends les avocats des fournisseurs dire que non, c'est même l'État qui doit donner de l'argent ces gens, c'est eux qui avaient mis leur argent. Tu te demandes d'abord comment ils se sont enrichis, on ne sait pas, parce que beaucoup étaient partis du néant. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'État qui doit leur... On ne comprend rien. C'est pour ça que j'ai parlé des jeux d'enfants.
Mm-hmm.
Et on nous mène presque en bateau, quoi.
Et Maimouna Diado, selon toujours le procureur dans sa sortie médiatique, les faits qui sont reprochés à ces auteurs de la surfacturation, si on peut le dire, sont susceptibles de recevoir des qualifications pénales et même justifier l'ouverture d'une information judiciaire contre eux. Et même les complices pour plusieurs infractions à la loi pénale, a-t-il ajouté. Selon vous, quelle sera vraiment la suite ? Cette information judiciaire qui sera peut-être ouverte très bien.
Bon, pour ce qui est de cette information judiciaire qui sera ouverte très prochainement,
mm-hmm.
Je pense que c'est à saluer d'abord,
mm-hmm.
parce que véritablement, comme les autres l'ont dit après moi, on ne peut pas rester dans un pays comme le Niger,
mm-hmm.
faire de l'impunité et vaquer à ses occupations comme mm-hmm. si de rien n'était.
Mm-hmm.
Je pense que c'est rendre justice à la population nigérienne, c'est rendre justice à ceux qui aujourd'hui sont dans ces prisons à cause, par exemple, tout simplement parce qu'ils ont eu à dire certaines vérités mm-hmm. sur cette affaire du ministère de la Défense.
Mm-hmm.
Et je pense que également pour ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur également, ça sera
bien,
ça sera bien sûr, ça peut réconforter également ces familles,
mm-hmm.
Même si aujourd'hui on peut pas perdre un enfant et être réconforté
vraiment.
Par ces gens qui seront peut-être poursuivis et emprisonnés,
mm-hmm. mm-hmm.
mais ce qui est sûr,
justice sera faite,
mais on voudrait que la justice, la sentence qui sera dite par rapport donc à ces certaines personnes puisse être vraiment quelque chose qui peut conforter,
mm-hmm.
réconforter tous les Nigériens.
Mm-hmm.
Parce que nous savons, il y a justice, c'est vrai,
mm-hmm.
mais la justice, c'est à deux niveaux.
Mm-hmm.
Il y a ceux qui n'ont rien fait aujourd'hui, qui sont en train de croupir. Ça, c'est la justice aussi.
Mm-hmm.
Mais dans notre côté, il y a ceux qui sont fautifs
mm-hmm.
et qui devraient être aujourd'hui dans ces prisons
mm-hmm.
et qui ne sont pas dans ces prisons. Et vous savez, dès le début, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de discussions. Les Nigériens voulaient vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a autour donc, de ce dossier. Parce qu'au début, on avait tout simplement dit que ces gens pouvaient ramener l'argent et seront libres, en fait.
Mm-hmm. Et taire même l'affaire.
L'affaire devrait être mm-hmm. vraiment bouclée.
Mm-hmm.
Mais maintenant, avec cette ambition du procureur d'aller, de voir juste vraiment mm-hmm. Faire la part des choses pour mm-hmm. que justice soit rendue. Moi, mm-hmm. je pense que c'est déjà une très bonne chose. Hein.
On espère,
les mm-hmm. Nigériens espèrent que vraiment ça sera sincère, que ça ne sera pas aussi quelque chose qu'on va nous dire et puis ne pas revenir sur ça.
On l'espère bien.
En fait, Nevis, je crois que c'était un problème de communication quand, à l'époque, le gouvernement avait avancé que les gens pouvaient payer mm-hmm. et la
terre.
C'était une grande erreur.
On ne connaissait pas l'ampleur de la situation.
Mm-hmm.
C'est après, au fil des temps, quand le dossier était sorti, que les gens se sont rendus compte que c'est une gabégie mm-hmm. énorme.
On espère bien que lumière soit faite sur cette histoire.
On espère que ça soit vite fait. Hein.
Autre aspect de ce forum, l'enrôlement de la diaspora nigérienne au fichier national biométrique sera-t-il possible ou pas? En effet, au cours de la dernière réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Isaac Sona, a évoqué l'impossibilité pour l'instant d'enrôler les Nigériens de la diaspora pour raison de la pandémie de la COVID-19. Cependant, le Premier ministre a saisi la Cour constitutionnelle afin de savoir si la pandémie de la COVID-19 est un cas de force majeure qui oblige à suspendre les opérations d'enrôlement des Nigériens de la diaspora, mais aussi si un fichier électoral national biométrique établi sans les listes des ambassades et ou consulats est valide. Alors, dans un arrêt rendu le 15 juin 2020, la Cour constitutionnelle a déclaré valide un fichier électoral national biométrique établi sans la liste des Nigériens de la diaspora, 9e région du Niger. Alors, Maimouna Diado, je reviens vers vous. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation?
La lecture que je fais de cette situation, comme on dit, la Cour constitutionnelle, quand la Cour constitutionnelle se prononce, c'est vrai, on n'a mm-hmm. pas
c'est
le
la
choix
que
de suivre également.
Mm-hmm.
Mais moi, ce que ça me fait mal aujourd'hui, de savoir que c'est nos frères de la diaspora
mm-hmm.
ne peuvent pas être enrôlés et ne peuvent pas exercer leur droit de vote.
Mm-hmm.
Ça me fait très mal, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, c'est un plus, c'est Nigérien, ce sont des Nigériens, ils doivent en fait concourir au développement du pays.
Mm-hmm.
Ils doivent participer aux élections.
Mm-hmm.
Et je me dis que, je ne sais pas, la CENI, après tout ce temps, peut-être, s'il n'y avait pas la pandémie de COVID-19,
mm-hmm.
qu'est-ce qui serait arrivé? C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Parce que on parle de pandémie, on parle de COVID-19. Mais la CENI a eu tout le temps nécessaire,
mm-hmm.
en fait, pour aller vers l'enrôlement de ces Nigériens.
Les dispositions donc devraient être prises en amont.
En amont,
oui.
Parce qu'il s'agit de la diaspora. Mais quand vous regardez, même ici au Niger, ne parlons même pas de la diaspora.
Mm-hmm.
Comment est-ce que l'enrôlement aujourd'hui a été fait?
Effectivement.
C'est ça. Il faut se poser la question. Aujourd'hui, moi, je me dis, c'est un droit constitutionnel.
Mm-hmm.
C'est un droit pour ces Nigériens de voter.
C'est un droit pour chaque citoyen.
C'est un droit, en fait. Et réclame ce droit.
Mm-hmm.
Mais maintenant, moi, je me dis, ça ne peut pas arranger, ça ne peut ne pas également les arranger. Ça n'arrange personne de toutes les manières.
Mm-hmm.
Ça n'arrange personne. Parce que quand on regarde au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont quand même des représentants.
Justement,
au niveau de l'Assemblée nationale.
Quel sera l'avenir de ces députés
mmh, aujourd'hui
mmh.
Au niveau de l'Assemblée nationale.
Mmh.
Donc, il faut essayer d'analyser tout ça. Et je pense que vraiment, véritablement, la CENI a échoué
mmh.
dans sa mission, en tout cas d'enrôlement. Ça, il faut le dire.
Roufa, êtes-vous d'avis?
On n'a pas une diaspora énorme. Bien que ce soit un droit,
mmh.
la diaspora nigérienne, je crois que c'est l'une des diasporas la plus... Quand vous prenez quand vous totalisez tout le vote qui a été fait aux dernières élections,
mm-hmm.
et il n'y a pas 5000 qui ont voté.
Donc,
c'est vrai, 5000, ce n'est pas peu. Mais il n'y a pas 5000 qui... Parce que quand vous comparez avec Niamey, je crois que c'est Niamey, on n'a pas 300 000 qui votent dans tout Niamey.
Oui.
D'accord. Mais il n'y a que 5 députés déjà.
Mm-hmm.
5 sur 171 députés. Je crois que pour ces élections, on peut se passer. Et la Cour constitutionnelle, elle a rendu un arrêt.
Mm-hmm.
On a dit que son arrêt n'est pas...
susceptible de
on a dit c'est un cas de force majeure.
Mm-hmm.
Le cas de force majeure, c'est quoi? C'est
la
COVID-19. On sait tous qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller en Europe.
Justement.
On ne peut pas aller aux États-Unis. Ça fait depuis décembre, non?
Mm-hmm.
Même si peut-être qu'il aurait dû ou pu avant l'avènement de la pandémie. Peut-être que comme personne n'avait prévu ça, là, c'est là où ils ont peut-être les circonstances atténuantes. Mais avant, peut-être, elle aurait pu organiser l'enrôlement bien avant l'avènement. Mais dès que la pandémie était arrivée et que les gens avaient arrêté de voyager, je crois que ce n'est pas leur faute. Aujourd'hui, on peut dire quelque part que c'est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Je ne pense pas que le vote des Nigériens à l'étranger peut influer ou peut changer quelque chose sur les élections qui
D'accord.
vont venir.
Pour Hassan Boukar, selon vous, l'on peut bien se passer de la diaspora dans ces élections?
Non, je suis pas d'accord avec Roufay. Non. Je pense que, oui, quand je suis d'accord avec lui, quand il dit, par exemple, que depuis peut-être février, mars, on ne peut plus voyager. Donc, la CENI, elle ne peut rien faire parce qu'il y en a la diaspora, ils sont dans différentes régions du monde. C'est difficile d'aller dès lors qu'il n'y a pas de voie. Ça, c'est, on peut comprendre. Maintenant, la diaspora, à mon avis, nous devons travailler davantage pour que la diaspora puisse garder des liens très étroits avec le pays. Aujourd'hui, comme Roufay l'a dit, peut-être que comparé à un pays comme le Mali ou le Sénégal, on n'a pas une grande diaspora. Pour autant, peut-être que la diaspora est appelée à grandir. Hein. Il faut qu'on s'intéresse davantage à la diaspora. Vous avez beaucoup de pays aujourd'hui qui ont des réactions permanente à l'endroit de la diaspora pour l'amener à contribuer au développement local. Chez nos voisins du Mali, par exemple, dans les collectivités, la diaspora joue un rôle extrêmement important. Et lorsque vous êtes maire, vous débrouillez quand même chaque fois, aller souvent les rencontrer, parler avec eux des questions de développement, d'investissement dans le secteur social et tout ça. Et ça s'est traduit par des actions de la diaspora qui ont été extrêmement importantes. Alors, on voit aussi le type de difficultés auxquelles la diaspora a exposé. On peut prendre des exemples récents, la Côte d'Ivoire. C'est quand même un pays dans lequel on a relativement une diaspora importante. Les gens sont allés, ils faisaient bon vivre la Côte d'Ivoire, mais il fut un moment où c'était extrêmement difficile. Et donc, du coup, les gens qui ont investi tous leurs œufs dans un même panier se sont retrouvés les mains vides. Et donc, je pense que les pouvoirs publics ont quand même un rôle de sensibilisation, de faire en sorte que la diaspora, tout en étant là où elle a choisi d'être, qu'elle ne puisse pas totalement couper avec le pays. Je pense qu'elle peut jouer un rôle extrêmement important.
Mais quand même, je sais que la plupart de ces ressortissants vont se sentir frustrés peut-être.
Oui. Parce qu'on l'a déjà essayé. C'est-à-dire que si on dit un jour on fera en sorte que la diaspora soit à l'Assemblée, ok, c'est une promesse, mais dès lors qu'ils ont déjà des représentants, donc ça dit que c'est quelque chose qui a été entamé et qu'il y a une rupture. Donc ça va frustrer les gens, c'est tout à fait normal. Et donc je pense que c'est bien dommage qu'on arrive à ça, mais bon, ce processus électoral, quand même, tel qu'il a commencé, c'était prévisible. À mon avis, il y avait beaucoup de tiraillements autour de la CENI elle-même, autour de membres de la CENI, de qui sera là, qui ne sera pas là. Il y avait tellement de tiraillements autour de la CENI. Donc, au point où, malheureusement, des gars de ce type auxquels on peut faire face.
D'accord.
Mais c'est, pour moi, c'est bien dommage. On aurait pu bien se préparer. Parce que là, bon, c'est quelque chose qui a été entamé et qui s'arrête. Quoi. C'est bien dommage pour moi.
Et c'est bien dommage en tout cas.
En fait, moi, je me dis qu'il ne faut pas... C'est vrai, on a commencé à voter des députés de la diaspora. Mais il ne faut pas que ça soit du mimétisme. Parce que la France a des députés pour les Français de l'extérieur. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Les députés des Nigériens de l'extérieur. qu'on me dise ce que ces députés ont fait.
Ils représentent les Nigériens qui sont à l'extérieur.
Les actions.
D'accord. Oui. Qu'on me dise ce que ces députés ont fait. Qui les connaît d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels actes ils ont posés pour ces.
Ils ont connu.
Voilà. Oui, c'est que.
Bon, pas seulement.
C'est pour vous dire qu'on peut s'en passer. Il ne faut pas que. Comme la France on a vu ce que, par exemple, les députés de français de l'extérieur font. On les voit.
Ceux qui les ont élus, ils ont beaucoup fait pour eux, peut-être.
Oui, ils étaient sortis. ils étaient sortis voter parce qu'ils avaient la possibilité de le faire.
Mm-hmm.
Ils avaient la possibilité de le faire. Mais moi, je me rappelle quand on partait à l'Assemblée et qu'on les voyait, mm-hmm. c'est à peine que ces gens-là parlaient. Ils ne savaient même pas ce pourquoi ils étaient à l'Assemblée. Mm-hmm. Ils sont à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est vrai, on a commencé. Un processus a été enclenché. Il a été interrompu pour cause de la COVID, comme on dit.
Mm-hmm.
Et il faut accepter cela et que maintenant, ce qu'on doit imposer ou bien proposer à la CENI, mm-hmm. c'est que lorsque le moment sera favorable, qu'on rattrape les choses. Qu'on fasse l'enrôlement biométrique que ces gens même qui doivent venir à l'Assemblée, qui sont à l'extérieur, qu'ils sachent pourquoi ils vont venir à l'Assemblée. Mm-hmm. Quel sera leur... Ça ne sera pas juste venir pour avoir les perdièmes de l'Assemblée nationale et retourner dans leur pays le moment venu. Quoi.
Actualité hors de nos frontières. Depuis le 5 juin 2020, des Maliens, à leur tête l'imam Mahmoud Diko, sont dans la rue pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Roufaï, quelle analyse faites-vous? Qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, cette révolte des Maliens qui demandent le départ du président?
Peut-être que le problème d'insécurité déjà, l'incapacité du président Ibeka à dialoguer avec l'opposition. Je crois qu'il y a tout un tas de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, les Maliens pensent que Ibeka ne peut pas diriger le pays.
Mmh.
Ils le trouvent faible face à la gestion. De l'État, puisque aujourd'hui l'État malien n'existe pas en tant que tel. Vous vous rappelez lorsque le président du Niger avait parlé du problème du Sahel qui vient de Kidal. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'État au Mali. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus.
Mmh.
La preuve, le principal opposant a été arrêté par les djihadistes. Ça fait des mois, le président ne pipe pas mot, il ne fait rien, il est là assis, il ne cherche pas, ou bien s'il le cherche, on ne sait pas s'il le fait vraiment de manière sérieuse. Mais malgré tout ça, je pense que ce n'est pas la meilleure manière de chercher le pouvoir.
Mmh.
Un président a été élu pour un mandat. Je pense que le pouvoir s'arrache par les urnes, pas dans la rue.
Mmh.
Et tout à l'heure, avant de rentrer dans ce studio, je disais que la rue ne gouverne pas.
Mmh.
Je suis entièrement d'accord. On peut protester, mais pas demander le départ de Ibeka. Aujourd'hui, si Ibeka...
Il y a des procédures.
Voilà, si Ibeka quitte, qui va venir? Du coup, il parle sous le couvert de la religion. Chaque vendredi, les gens se quittent après les prières du vendredi.
Mm-hmm.
Ils s'attroupent pour demander le départ de Ibeka.
Donc,
je suis bien d'accord que Ibeka est trop faible pour diriger encore le
Mali.
Sauf s'il ne se ressaisisse. Mais je ne suis pas d'accord qu'on lui demande de quitter le pouvoir, de le donner à qui? À Diko, je ne sais pas. Attention à ce que le Mali ne soit comme la Libye. On a vu comment est devenue la Libye aujourd'hui. La Libye n'est plus un État. Chacun fait ce qu'il veut. Et tout se passe en Libye. Imaginez que ça arrive au Mali. Mm-hmm. Imaginez que ça arrive au Mali. Qu'est-ce qui va se passer dans les autres pays voisins? Ça va s'étendre. Ça va être... nous, on est frontière du Mali. D'autres pays sont frontières. tout le monde va se dire ok, on l'a fait en Libye, mm-hmm. on l'a fait au Mali. Donc nous aussi on va faire ça. Qu'est-ce que le Sahel va devenir, ça, mm-hmm. ça veut dire que le Sahel va être
le berceau vraiment de
voilà de l'insécurité permanente, mm-hmm. et les djihadistes vont profiter pour s'installer, mm-hmm. aujourd'hui. Et Kidal, c'est un état de n'appartient plus au Mali, mm-hmm. puisque récemment j'ai entendu les djihadistes de Kidal qui ont gracié des prisonniers. Mm-hmm. Imaginez dans un état que ouais, des gens qui s'élèvent pour gracier. Oui, alors que le droit de grâce revient constitutionnellement au président. Voilà. Et là encore, il faut que les gens soient condamnés pour que le président gracie les gens. Mm-hmm. Aujourd'hui, au Mali, ça se fait. Au su et au vu de tout le monde. Mm-hmm. Moi, je n'appelle pas la communauté internationale à venir. Et non, c'est aux Maliens de se dire qu'on doit s'asseoir, mm-hmm. sur la même table pour discuter. Pour se dire que non, on n'a pas à faire ce que, par exemple, la Libye a fait. Mm-hmm. S'ils continuent dans ce sens, je pense qu'ils vont récolter les pots cassés, mmh. et demain, ils vont se mordre les doigts. Je ne pense pas qu'on en arrive, mmh. à ce stade.
Et face donc à ces manifestations, ce mouvement de révolte, le 14 juin, dans un message même à la nation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenté même de renouer le dialogue en tendant la main au mouvement de contestation. À ce sujet, Baba Donkono, il est secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité du Mali. Il nous analyse le message du président malien. Il est joint au téléphone par Tarnal Foudaï Ahmed. Je vous propose de l'écouter.
Cette adresse répondait un peu à certaines de ces frustrations, de ces mécontentements, et à cet effet, il a instruit au gouvernement de faire appliquer l'article 39 qui était le principal point de crispation entre le syndicat des enseignants et le gouvernement. Donc cela met fin, en tout cas selon les propos du chef de l'État, à la crise scolaire. Donc une partie des frustrations est prise en compte dans le cadre de cette intervention. À minima, ça fait apaiser une partie des mécontentements, mais elle est loin de régler toute la crise.
Et de l'autre côté des manifestants, on voit une sorte de satisfaction dans cette intervention.
Du côté des manifestants, la pression est toujours maintenue. D'ailleurs, le président de la République avait souhaité les rencontrer hier. Une invitation que les responsables du mouvement du 5 juin ont décliné. Donc, c'est toujours une position tendue où l'exigence de ce mouvement, c'est la démission du président de la République.
Alors, une délégation de la CEDEAO était également en mission au Mali pour trouver des pistes de solutions à cette crise. Maimouna Diado, selon vous, quelle sera la suite? Est-ce que il y a des solutions qui peuvent être trouvées selon vous?
Les solutions, c'est les pourparlers. Mm-hmm. C'est dans cette situation, on ne peut que écouter les deux parties, mm-hmm. trouver les pistes de solutions. La CEDEAO, mais je pense que c'est entre Maliens qu'ils doivent régler les choses. Mm-hmm. Aujourd'hui, le président Ibeka a été élu par les urnes. On ne peut pas dans la rue, on ne peut pas sortir et puis demander son départ. C'est anticonstitutionnel. Mm-hmm. Ceux qui sont en train de faire le mouvement savent que c'est anticonstitutionnel, mm-hmm. que personne ne va les soutenir dans cette démarche. Maintenant, qu'est-ce que la communauté internationale, c'est vrai, j'ai vu des agissements au niveau de l'Union africaine, l'Union européenne, il y a tout récemment les États-Unis également, à travers son diplomate au Mali, qui avait condamné ces agissements. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, comme je l'ai dit, ça devrait venir des Maliens. Le gros problème auquel nous sommes aujourd'hui, le Mali est confronté, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas, le président Ibeka n'a pas su unir tous les Maliens.
Justement, c'est pour cela qu'on sent qu'il n'est pas assez soutenu.
Qu'il est faible, voilà. On pense qu'il est faible. Il y a, quand vous regardez, déjà il y a des communautés aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre ensemble. Quand vous regardez les Dogons, quand vous regardez les Peuls, chaque jour, c'est des crises, chaque jour, c'est des tueries. On assiste à des tueries. Donc, quand vous regardez également, aujourd'hui, ces Maliens pensent que la situation sécuritaire que vive le Mali provient de Ibeka. C'est ça. Parce que pour eux, ça fait très longtemps qu'ils attendent, en fait, qu'il y ait des solutions pour cette crise sécuritaire. Mais ils ont comme l'impression que Ibeka joue le jeu de l'Occident, en fait. C'est ça également qui a fait en sorte que ces Maliens qui sont descendus dans la rue pensent que vraiment c'est une situation où ils peuvent plus rester, croiser les bras, regarder par exemple le politique en train de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui également, quand vous regardez la situation, il y a la situation socio-économique également, très dégradante au niveau donc du Mali. Donc tout ceci, je pense que aujourd'hui, en descendant dans la rue, c'est également pour se faire écouter. Et je pense que peut-être on peut les écouter, trouver une piste de solution. Mais la solution, je dis et je le répète, c'est pas la CEDEAO qui va venir arranger les choses. C'est pas également l'Union européenne,
c'est vraiment les concernés,
les Maliens qui doivent se retrouver sur la table, poser les vrais débats, essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour unir d'abord tous les Maliens autour du Mali, parce qu'ils n'ont pas un autre pays à part le Mali. Et je pense que s'ils se hasardent déjà à mettre déjà dans une crise sécuritaire déjà existante, des problèmes encore, comme ce genre de problème, je pense que où est-ce qu'ils iront?
Parce que les hommes politiques aussi doivent arrêter d'être hypocrites.
C'est ça, en fait.
Ils profitent de la masse que Diko mobilise et ils sortent maintenant pour sa cause.
Parce que
donner un ultimatum à un président.
Voilà, mais quand vous regardez, quand on sait que le soutien aujourd'hui, dit quoi le soutien de l'opposition, dit quoi le soutien des acteurs de la société civile malienne, dit quoi peut avoir même peut-être le soutien d'un pays extérieur, qui sait, personne ne sait. Mais je dis que nous ne sommes pas en tout cas d'accord sur ce genre de mouvement. Le mouvement, c'est vrai, vous pouvez contester autant de fois que vous voulez, mais vous ne pouvez pas demander le départ d'un président qui a été élu. Même s'il est faible, vous l'avez élu. Et au moment où vous l'avez élu, vous savez déjà que...
Il était faible. Pourquoi l'avoir?
Oui.
Donc, Hassan Boukar, les enjeux, ils sont vraiment énormes, si on peut le dire, les enjeux principaux de cette révolte. Selon vous, quels en sont les principaux mêmes enjeux?
Merci beaucoup. Je pense que il y avait quand même... Ça fait des années, depuis le début de l'insécurité au Mali. Il y avait quand même beaucoup de réactions des citoyens maliens. Rappelez-vous du coup d'État qui a fait partir Amadou Toumani Touré.
Oui.
Donc, il y avait déjà une réaction. C'était l'acte final était posé par les militaires, mais il y avait beaucoup de réactions au sein de la population malienne qui avaient l'impression à un moment que le président ATT n'était pas l'homme capable de répondre à leurs attentes. Il y a eu beaucoup d'espoir autour de Ibeka. Ibeka, quand même, a eu de grandes responsabilités. Je pense que je suis allé, comme journaliste, couvrir une rencontre ministérielle. C'était peut-être en 1998-1999. C'était quand même quelqu'un auquel on prédisait un grand avenir politique au Mali. Les gens pensaient qu'il ressemblait à une sorte d'homme fort, capable vraiment de pousser le Mali pour l'amener de l'avant. Mais chemin faisant, je pense que les gens ont l'impression qu'ils se sont trompés. On a posé la question à l'imam Diko en lui rappelant qu'en 2013, il fait partie des gens qui ont soutenu Ibeka. Il disait oui, je l'ai soutenu. Comme beaucoup de Maliens, je pensais que c'était la bonne personne face aux défis auxquels le Mali fait face. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'est trompé sur lui. Je pense que la situation qui est vue aujourd'hui le Mali, il y a d'abord cette crise sécuritaire, le statut de Kidal, les accords d'Alger qui n'avancent pas, la guerre entre communautés dans la partie centrale du Mali, une force onusienne qui est là pendant des années, des forces armées voisines avec le G5, tout ça. Ça fait des années. Aujourd'hui, les Maliens ont l'impression que vraiment, leur pays, ils sont en train de le perdre. Et ils ont en face quelqu'un. Est-ce qu'il demande trop à Ibeka? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, en tant que lui, du peuple malien, c'est de lui qu'il attend les résultats. Ils ont l'impression que ça ne vient pas. Je me rappelle, on a eu un débat ici. Je pense qu'on a dû recevoir quelqu'un des studios Tamani qui vous a rendu visite. Alors moi, à l'époque, je disais, je ne sais pas pourquoi Ibeka est candidat à sa réélection. Il a presque traversé son premier mandat par rapport à tous ces grands dossiers, que ce soit la question de Kidal, la question des affrontements ethniques, la question de l'armée malienne qui était totalement défaite, etc. Je n'ai pas eu l'impression qu'il avait une réponse à la hauteur.
Oui, donc Hassan Boukar, pensez-vous qu'avec vraiment toute cette révolte, cette colère des Maliens, IBK puisse céder?
Alors, est-ce qu'il va céder? Est-ce qu'il va pas? Mais comment moi, est-ce que j'ai lu? J'ai lu ces manifestations comme étant des gens qui ont l'impression que leur pays va dans l'abîme. Mm-hmm. Ils n'ont plus de sécurité, ça mm-hmm. fait des années. Mm-hmm. Ils perdent espoir, mm-hmm. ça fait des années. Ils ont l'impression que leur pays sera divisé. Mm-hmm. Les solutions viennent d'ailleurs. À Bamako, presque rien n'est décidé. Mm-hmm. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de désespoir face à, pas seulement IBK, peut-être qu'il est la personne qui est là aujourd'hui au mauvais ou au bon endroit. Mais à mon avis, c'est toute la classe politique, mm-hmm. Toute l'élite malienne aujourd'hui. L'impression que j'ai pour les citoyens maliens aujourd'hui, cette élite n'arrive pas à répondre. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a à la tête de ces manifestations un religieux. Mm-hmm. C'est un religieux. Ça fait des années, hein, on pense que si l'élite n'arrive pas à donner satisfaction, après nos conférences nationales, il y avait beaucoup d'espoir. Mm-hmm. Si l'élite n'arrive pas à donner les réponses attendues par les citoyens, mm-hmm. peut-être qu'il y aurait une désaffection des citoyens vis-à-vis de l'élite, mm-hmm. et les gens chercheraient refuge ailleurs. Mm-hmm. Alors, un religieux qui arrive dans un pays musulman comme le Mali, ça aurait pu être ailleurs, c'est mm-hmm. M. Diko, là. Peut-être Diko, que d'autres oui. pays auront leur Diko. Alors, qui vient, qui rappelle la parole de Dieu.
Oui, rapidement.
Voilà, qui rappelle la parole de Dieu. Moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter récemment dans mm-hmm. une interview qu'il a accordée, où il disait, ben, écoutez, le rôle des religieux, c'est de conduire des hommes. Mmh. Notre rôle, ce n'est pas seulement d'officier la prière, mais nous occupons du social. Mmh. D'ici, en venant parler des problèmes du Mali, en disant que le Mali va à l'abîme, en demandant aux Maliens de se mobiliser pour construire une solution, on mmh. pense qu'il fait de la politique. Mmh. Il dit bon, à la limite, il assume ça, quoi. Et donc, pour moi...
Oui, pour finir, pour moi,
je ne sais pas si IBK va répondre. Mais c'est une situation extrêmement grave qui mm-hmm. peut toucher d'autres pays.
D'accord.
Pour moi, on verra d'autres du coup au Sahel.
On verra bien. Oui, Rufai, rapidement, on est à la fin.
Moi, je pense qu'il doit tenir jusqu'au bout parce que la démocratie doit triompher normalement. Mm-hmm. Normalement, c'est ce que, pour moi, doit se passer. Mm-hmm. Mais Abba a rappelé quelque chose. Mm-hmm. Et partant de ça, je me dis que les Maliens sont victimes de leur propre trépuchette. Mm-hmm. Lorsque il y avait eu le coup d'État de Sanogo contre ATT, mm-hmm. ils avaient applaudi parce que pour eux, ATT ne pouvait pas.
L'histoire les a rattrapés.
Ils avaient applaudi et ATT leur avait dit de faire attention qu'il y a une poudrière dans leur pays. Voilà. Et le jour où ça va exploser, aujourd'hui, ça leur arrive. Ah, et ils ont une armée qui est faible, qui mm-hmm. n'est pas habituée, par exemple, aux guerres, comme à l'armée nigérienne, par exemple. Aujourd'hui, leur armée est incapable de faire face aux djihadistes. Mm-hmm. La preuve, ils ont un pays divisé en deux. Mm-hmm. L'armée malienne ne peut même pas aller au Kidal. Mm-hmm. La dernière fois, quand vous voyez un pays qui négocie avec les djihadistes pour aller
dans l'autre partie du pays, c'est grave.
Ils sont victimes de leur propre trépitude, ils n'ont qu'à faire très attention.
Merci Rufai, merci chers invités. C'est donc ici que se referme le forum de la presse. Nous étions en compagnie de Memouna Diado et les journalistes à la radio et télévision Tabara. Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative, et Rufai Dendoua, journaliste à freelance. Merci, chers invités. Merci aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche, dès 17h, avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi, le forum en langue Hausa, sur la prévention de la COVID-19 auprès des enfants. Et dimanche, à la même heure, le forum en langue Zerma, sur la même thématique. C'était le fils Adam Sirfo à la modération, Seni Isaka à la technique et Mustapha Ayouba à la régie vidéo. Au revoir.